Et dans la question du jour, nous vous posions la question suivante. Suivez-vous, regardez-vous les matchs de l'Euro 2024? Et vous avez été bien nombreux à dire que vous ne regardiez pas. Non à 64% sur Instagram. Sur Facebook, nous sommes dans la même mouvance. Vous êtes 67% à avoir déclaré non. Et puis sur X, anciennement Twitter, pour le coup, vous êtes 67% à avoir répondu. Vous êtes 62% à avoir répondu non, donc vous êtes plutôt majoritaire, chers auditeurs, à avoir répondu que vous ne regardiez pas l'Euro de football. Nous en parlons tout de même ce matin avec notre invité Fred Vassège, qui est journaliste, ancien joueur de football professionnel que nous avons l'occasion de voir sur la RTBF depuis le 14 juin et le début de cet Euro de football. Tout de suite, notre échange. Fred Vassège, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, ancien joueur de football professionnel. On a l'occasion de vous voir sur la RTBF très régulièrement pour parler football. Alors Fred, dans le cadre de la question du jour sur Radio Judaïka, nous avons posé la question suivante à nos auditeurs. Regardez-vous les matchs de l'Euro 2024? Et leurs réponses sont assez mitigées. Pour commencer avec vous, Fred, avez-vous l'impression que les gens se passionnent pour ce cru 2024 de la compétition européenne?
Ben écoute, c'est difficile à dire parce que moi je vis dans ce milieu là où tout le monde ne me parle que de foot, donc j'ai l'impression que les gens sont intéressés. Maintenant, je ne sais pas si en dehors des foules, moi ce que je peux vous dire, c'est que les audiences des Belges sont exceptionnelles. Donc voilà, je ne sais pas vous dire s'il y a une érosion du public, mais moi j'ai l'impression que ça continue comme avant et que dès qu'il y a une grande compétition, tout le monde regarde.
C'est vrai qu'on a l'impression, on l'a vu pour les matchs des Diables Rouges, dans les rues, on a l'impression que les gens se passionnent, mais vous, plus particulièrement sur le jeu, est-ce que vous trouvez que cette édition est une bonne édition? On entend plusieurs spécialistes nous dire qu'ils sont peut-être un peu déçus par le niveau de jeu de cette année.
Oui et non, oui, dans le sens où il y a beaucoup de grandes nations qui sont décevantes, et non, dans le sens où il y a beaucoup de petites nations qui sont épatantes. Donc, on a découvert la Slovaquie, la Slovénie, il y en a d'autres, j'imagine, que j'oublie. Mais voilà, au départ, on se dit que cette phase de groupe où il n'y a qu'un tiers des équipes qui sont éliminées, c'est une vaste blague qui est uniquement faite pour créer plus de matchs, créer plus d'audience. Plus avec beaucoup d'entraîneurs étrangers, notamment des Italiens. Et donc voilà, il y a eu des belles surprises. Je veux dire, par exemple, l'Ukraine tactiquement contre la Belgique, c'est un chef-d'œuvre. Et puis il y a eu des petites équipes qui ont joué crânement leur chance face à de grandes équipes, des grandes nations qui semblent un petit peu en bout de course. Et évidemment, c'est notamment dû au fait que la plupart de leurs joueurs jouent dans des grands championnats, jouent des Coupes d'Europe très loin et qui ont l'air un petit peu carbonisés, quoi. Donc voilà, le bilan, il y a toujours moyen d'être déçu, mais il y a toujours moyen aussi de s'émerveiller un petit peu par des surprises. Je trouve que les petites nations ont été plutôt épatantes.
Justement, le fait que ces petites nations soient épatantes, c'est notamment dû au fait que depuis 2016 maintenant, le nombre d'équipes qualifiées pour l'Euro est à 24 équipes. C'est justement, ça permet. Ça a été critiqué, cette décision, lorsqu'elle a été décidée, mais comme vous l'avez rappelé, ça a permis de voir des équipes comme la Géorgie, comme la Roumanie en 8e de finale.
Oui, voilà, c'est mon départ. Je trouve ça, il faut arrêter d'exagérer avec le nombre de matchs, quoi. Tous les joueurs se plaignent de matchs de saison, et les grandes instances comme la FIFA, l'UEFA n'arrêtent pas de rajouter des matchs uniquement pour toucher plus d'argent entre les droits de télé et tout ça. Mais voilà, et dans toute chose un peu négative, il y a aussi du très positif, et on découvre des footballs qu'on ne connaissait pas grâce à ces changements. Et finalement, c'est au détriment de ces joueurs qui jouent dans les grands clubs et qui jouent 60, 70, 80 matchs par an, ce qui est une aberration totale. Mais voilà, le bon côté des choses, c'est qu'on découvre. Et franchement, découvre et être épaté, c'est plutôt agréable.
Alors, au-delà de la découverte, c'est ce vendredi à 18h que les choses sérieuses commencent, si j'ose dire. Vous êtes excité?
Je suis quoi?
Vous êtes excité par ce France-Portugal et cette Espagne-Allemagne qui arrive?
Oui, sauf que demain je suis en concert, donc ça va être compliqué de la regarder. Mais oui, forcément, parce que ce sont deux affiches qui enfin, franchement, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce que bon, l'Espagne est évidemment la meilleure équipe de ce tournoi. C'est une équipe qui semble largement au-dessus du lot. Parce que pourquoi? Ben parce que collectivement, c'est très très costaud. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui jouent dans le même système, qui se connaissent, qui depuis les U18, il y a une vraie continuité chez eux, et qui plus est, il y a la révélation de quelques jeunes, comme Williams, comme Jamal et tout ça, qui sont des joueurs au-dessus du lot. L'Allemagne, elle joue à domicile, elle revient de nulle part, quoi. Je rappellerai quand même qu'il y a 6 mois, cette équipe était à la rue, et là, tout d'un coup, boum, ça devient cohérent, parce qu'il y a le retour de Kroos qui a complètement cimenté ce jeu. Et puis France-Portugal, voilà, le Portugal est passé par les chattes l'aiguille. La France, elle n'a encore épaté personne. Enfin, c'est une équipe fascinante avec un entraîneur qui n'a absolument rien à foutre du spectacle. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se qualifier. Et on attend, on se dit, bon, c'est bien vu, bien sûr, mais parce qu'il y a des joueurs exceptionnels qui peuvent faire la différence à tout moment, et ces joueurs n'ont jamais fait la différence présent. Donc, il suffira peu de choses.
Samedi, c'est peut-être la grosse déception de cet Euro pour l'instant. C'est l'Angleterre qui jouera contre, pour le coup, la très bonne surprise, très agréable surprise qu'est la Suisse.
Oui, mais la Suisse, on les voyait venir, hein. C'était quand même quelques fois, rappelez-vous, ils ont quand même sorti la France là,
En
alors qu'ils étaient
2021.
menés deux, voilà, ils étaient menés 2 buts. Donc voilà, la Suisse aussi, c'est toute une génération qui arrive à maturité. Et puis, vous savez, dans le football, il suffit de peu de choses. Il suffit que chacun, il y a Leverkusen qui prennent une dimension supplémentaire. Il y a Kanji City, voilà. Là aussi, c'est une génération qui joue depuis 10 ans ensemble. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, je vais pas avoir le mauvais goût de comparer avec la Belgique, où là, on a l'impression qu'ils ne jouent jamais ensemble, que c'est toujours des innovations, des improvisations. Voilà, il y a rien de tel que le vécu. Donc, ces équipes sont habituées au système, et tout le monde s'épanouit beaucoup plus là-dedans. Quant à l'Angleterre, c'est encore une fois plus la preuve qu'il suffit pas d'avoir des grandes individualités pour faire une grande équipe. Il faut savoir les faire jouer ensemble. Et il y a trop de joueurs qui au lieu de s'additionner, voire se multiplier, ben, elles s'annulent un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est dans le même secteur c'est dans le cœur du jeu que vous avez des Kane, des Foden, Bellingham qui se marchent sur les pieds. Et dans ce cadre-là, évidemment, on va quand même relever que Bellingham, une fois de plus, c'est ça les grands joueurs. Malgré son jeune âge, ce mec est un grand joueur parce que, sur un geste, il a sauvé complètement une nation majeure du football qui est à la rue au niveau collectif, mais qui est quand même là au quart de finale.
Fred, on ne peut pas parler de cet Euro 2024 sans revenir sur la performance de nos Diables. On le rappelle, éliminé par la France lundi dernier, 1-0 sur un autogol de Jan Vertonghen. Quel bilan vous tirez de cet Euro 2024 pour nos Diables?
Ben forcément décevant, parce que même si c'était prévisible, moi je pense que ça faisait les 4 derniers matchs amicaux avant l'Euro, je disais, mais enfin, comment est-ce possible d'encore improviser, d'encore tester, d'encore tenter des choses tactiquement? Je veux dire, rappelez-vous, le dernier match, on fait jouer Meunier à gauche, et puis le premier match du tournoi, on fait jouer Carrasco arrière-gauche, le match suivant, on fait jouer extérieur droit. Donc voilà, on se disait, voilà, il y a une belle génération, ça s'est joué, mais en qualification, en général, les Belges se baladent parce qu'ils sont au-dessus du lot. Mais on avait pu remarquer que chaque fois qu'on avait été un petit peu testé, par exemple contre l'Autriche, en Angleterre, on se rendait compte que on avait beaucoup de mal à maîtriser l'ardeur adverse. Tout ça parce qu'on n'a pas encore assez de vécu commun, c'est normal. Donc il y a une ancienne génération, il y a une nouvelle qui arrive. Donc dans ce cadre-là, comme je vous parlais tout à l'heure de la Suisse, par exemple, qui est habituée au système, qui joue tout le temps ensemble. Nous, voilà, c'était un peu la ligue d'impro. Et à un moment donné, on se dit, mais quand est-ce qu'on va commencer à faire jouer tous ces gars ensemble, à faire des minutes de jeu, des temps de jeu, de la complémentarité. Et donc, on s'est rendu compte que, voilà, maintenant, à décharge des Diables et de leur entraîneur, je veux dire, contre la Slovaquie, on marque 3 buts, quoi. Et s'il n'y a pas cette bouffonnerie de puce dans le ballon, on fait au moins un partage et on termine premier du groupe. Et voilà, on est dans l'autre partie du tableau de qualification et c'est peut-être plus facile. Donc, voilà. Mais alors, globalement, c'est vrai qu'on voilà, on est un peu surpris de cette façon de gérer tactiquement et collectivement cette équipe. Maintenant, je veux répéter, parce qu'il faut toujours être positif, que à un millimètre près par rapport au but annulé à Lukaku, à cette faute de main qui est une insulte au football, parce que Openda se fait bousculer, il ne fait aucun geste vers le ballon. Voilà, on aurait très bien pu terminer comme c'était prévu, premier du plus faible groupe de l'Euro. Voilà, ça n'a pas été le cas. Donc forcément, on se pose beaucoup de questions et on reste sur notre faim.
Pour finir, Fred, vous avez mentionné l'Espagne, l'Allemagne, la France. Selon vous, qui est le grand favori de cet Euro?
Y en a plus. Il y en a plus. Bah oui, franchement, les favoris n'ont pas forcément convaincu. Je trouve, hein, bien sûr, maintenant l'Allemagne a rassuré. Si l'Espagne a été, on s'attendait à quelque chose, mais pas que ce soit aussi bien, parce que c'est très très fort, c'est très très fort. Donc au niveau des grands favoris, moi je dirais l'Espagne, bien sûr, l'Allemagne parce qu'elle joue à domicile et qu'il y a des joueurs là-bas qui savent gérer complètement le rythme d'un match. Et puis imaginons que voilà, qu'Mbappé se réveille. Qu'on joue un petit peu plus offensivement du côté de la France. Voilà, je pense que tout peut se passer, mais sur ce qu'on a vu depuis le début de cet Euro, je veux dire, il y a une équipe qui a tout maîtrisé depuis le départ, c'est l'Espagne.
Eh bien, Fred Vasseg, merci beaucoup pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste, ancien joueur de football professionnel. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Je vous en prie, salut, merci, ciao.